Prédicateur, pasteur, Alain Ouvrard. Étude biblique du livre de l'Apocalypse. 14e partie, les sept coupes.
Apocalypse, chapitre 16. Vous voyez que nous progressons. Hein, vous savez combien il y a de chapitres dans le livre de l'Apocalypse? Il y en a 22. Et nous sommes déjà arrivés au 16e. C'est bien. Alors, la chronologie n'est pas simple à appréhender, parce que c'est vrai que les choses sont laissées comme cela, tout simplement, et nous avons besoin vraiment de l'éclairage de Dieu, du Saint-Esprit, pour comprendre un petit peu les fêtes qui s'enchaînent les uns après les autres. Et puis nous sommes dans le temps. Nous sommes dans une période donnée. Alors, c'est vrai qu'à travers toutes les époques, toute l'histoire des hommes, et particulièrement depuis l'avènement du christianisme, eh bien, nous nous situons dans un temps particulier. Et peut-être, comme l'apôtre le souligne, vraisemblablement dans les derniers temps. Alors, je parlais de la chronologie. Je voudrais simplement vous dire et vous rappeler que les trompettes avertissent, on l'a vu ultérieurement, et que les coupes exécutent. Et nous allons naturellement nous préoccuper dans ce chapitre 7 des coupes, les sept coupes. Je vous ai dit il y a un instant, c'est que les trompettes avertissent, et elles avertissaient, dans notre méditation il y a quelques mois, tout simplement pour nous dire que la lutte finale était engagée. Et c'est une histoire qui va du chapitre 11 au chapitre 14. Nous l'avons vu. Maintenant, je vous ai dit que les coupes exécutent. C'est l'histoire qui va du chapitre 15 au chapitre 19, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà, je voulais vous le dire parce que c'est quelquefois un point de repère dans toute la grande histoire de la Bible, de l'homme, de l'humanité et de l'Apocalypse. Pour saisir le sens du message des coupes, qui sont au nombre de sept, il est nécessaire de les faire correspondre avec les sept trompettes. Alors, c'est vrai qu'il y a, je vous l'ai signalé, il y a un instant, le pourquoi. Parce que les sept trompettes annoncent, et les sept coupes annoncent semblablement les mêmes événements. Mais avec des nuances que nous allons peut-être approfondir ce soir. Si la trompette est un signal d'avertissement, je pense que ça sert précisément à cela. La coupe indique l'imminence de l'événement des jugements, ou tout simplement, la coupe, ou les sept coupes dont nous allons parler, nous parle du jugement de Dieu qui est maintenant exécutoire. Et avec cette pensée qui s'y rattache, c'est-à-dire l'impossibilité d'y échapper. Alors, je ne parle pas, et je tiens à le redire, je ne parle pas pour les enfants de Dieu. On est bien d'accord, nous sommes en face de deux mondes. Il y a le monde des hommes et des femmes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qui sont des rachetés, qui sont tout simplement, qui constituent l'Église, le corps de Christ. Et puis il y a les autres, ceux qui, à main levée, disent, tout simplement, nous refusons de croire en Dieu, nous pensons que Dieu n'existe pas et nous faisons comme bon nous semble. Donc, il s'agissait, à travers les trompettes, d'avertir tout le monde, avec cette possibilité qui était encore offerte à ceux qui ne voulaient pas entendre ou qui n'étaient pas forcément enclins à entendre, de se ressaisir. Maintenant, l'histoire des coupes, ça va être difficile pour ceux qui ont pris fait et cause. Et vous avez vu dans la progression, il était question finalement, d'une séparation. Il y avait ceux qui avaient le signe de l'agneau et ceux qui avaient la marque de la bête. Vous en souvenez de cela? Nous en avons parlé il n'y a pas très très longtemps. Et nous voyons que les coupes dont il s'agit, par rapport à toutes les autres coupes dont nous avons parlé précédemment qui sont dans le ciel, mais ces coupes sont pleines et elles débordent à ce moment-là. À partir du chapitre 7, eh bien, ça déborde. Et il est utile de dire que l'épisode des coupes dans lesquelles nous allons rentrer est en relation avec le jugement de Babylone, où nous parlerons longuement, parce que c'est intéressant, dans le chapitre 17, le chapitre 18. Et vous verrez, il y aura 3 études sur ces 2 chapitres, parce qu'il y a beaucoup à dire, puisque finalement, eh bien, Babylone, la grande prostituée, dont nous verrons un petit peu par le détail, eh bien, c'est quelque part, c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire de l'humanité révoltée. C'est l'histoire des hommes qui, eh bien là, en toute connaissance, et malgré les appels de Dieu à la grâce et au salut, refusent, s'entêtent, et qui fait une société, dont nous avons déjà levé un coin du voile au chapitre 13, qui est menée par un système, qui est conduit par l'antéchrist, et qui est bluffé par le faux prophète. Alors, on verra ça la prochaine fois. On remarque, selon la pensée biblique, que les coupes ne sont pas remplies de prières. Ça, c'est ce que nous avions dit déjà dans la vision des coupes qui sont sur l'autel et dans le temple de Dieu dans le ciel. Mais elles sont pleines de colère, celles de Dieu pour un monde impie. Un monde qui fait front devant l'évidence, devant les appels de la conscience, devant les pressions même, pour échapper, eh bien là, tout simplement à la condamnation. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, et nous remarquons que la première coupe est versée sur la terre. Au verset 1er et 2, nous allons lire, « Et j'entendis une voix qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre » les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il y versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le mal qui est mis en évidence consiste en un ulcère avec cet adjectif malin, entraînant de grandes souffrances parmi les hommes opposés à la vérité de Dieu et à son salut. Toutefois, et je le rappelle encore à nouveau, toutefois les enfants de Dieu sont épargnés. Vous vous souvenez de l'histoire des Hébreux en Égypte, au moment où les 10 plaies tombent et ravagent le pays et l'empire d'Égypte. Et Israël est mis à l'abri dans le pays de Gozen. C'est exactement la même chose, c'était une préfiguration l'histoire des plaies d'Égypte avec la délivrance des Hébreux. Les enfants de Dieu seront épargnés puisque ce fléau touche les adorateurs de la bête. Vous l'avez lu avec moi, il nous est parlé de ceux uniquement qui avaient la marque et qui adoraient cette bête. Ce qui n'est pas le cas naturellement des enfants de Dieu puisque le sujet de notre adoration c'est Christ, naturellement. Ce n'est plus un tiers, comme nous l'avions étudié précédemment dans différents aspects, mais la totalité qui est frappée. C'est le monde, l'humanité en rébellion qui est frappée. C'est la société des hommes que nous avons pudiquement l'habitude d'appeler inconvertis, c'est-à-dire qui sont nature, livrés à leur humanité, livrés à leurs instincts, livrés à leur penchant naturel. Et nous voyons que cette société porte en elle nombre d'ulcères pernicieux qui la détruisent. Alors il y a naturellement tout ce que nous pouvons imaginer de ces ulcères malins. Lorsque nous voyons notre société d'aujourd'hui, avec ces fléaux qui traversent l'humanité, qui touchent les hommes, ne serait-ce que dans leur santé, santé morale, santé physique, on parle de cancer, on parle de sida, on parle de vice, on parle de péché, d'alcoolisme, de drogue, de haine, et tout ça, ce sont des ulcères malins. Parce que ça n'amène pas la paix, ça n'amène pas la sérénité chez les hommes, au contraire, c'est quelque chose qui les tourmente, c'est quelque chose qui les entraîne à la mort, dans la mesure où, véritablement, ils ne crient pas à Dieu. Alors ces ulcères malins, on peut dire que ce que nous voyons et ce que nous entendons tous les jours, parce que le monde est pénétré par tout cela, et malgré les efforts, hein, malgré peut-être les bonnes intentions des hommes, c'est quelque chose qui pénètre de plus en plus. On pourrait peut-être mettre cela sous le vocable, comme Jésus nous en parle dans l'évangile de Luc, de maladie, de peste et de fléau, mais qui touche les hommes. Un ulcère, c'est quelque chose qui, finalement, eh bien, est insidieux, il pénètre et il détruit. Et il touche même, finalement, à l'essence même de la vie, c'est-à-dire c'est la cellule. Et nous voyons comment notre humanité et combien notre société est en train de se déliter, en train de se désagréger à travers toutes sortes de souffrances, toutes sortes de maux. Ça, c'est la première proposition qui nous est donnée. Ensuite, la seconde coupe est répandue sur la mer. Alors on fera un petit rappel d'ici quelques instants. Verset 3, « Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Je rappellerai à la mémoire de chacun, c'est que la mer est l'emblème des nations, des peuples sur la terre. Parce que Jésus et puis les apôtres comparent cette mouvance, cette agitation permanente des nations et des peuples qui s'entrechoquent, qui se querellent, qui se disputent comme le flot de la mer. Ça va dans un sens, ça va dans l'autre, avec ses marées hautes et ses marées basses. Hein. Donc c'est l'image des nations. L'histoire du monde nous rappelle, et nous rappelle malheureusement, combien de catastrophes sanglantes ont entraîné la mortalité effroyable des hommes. La guerre n'est pas d'aujourd'hui. Le fait et les faits de guerre sont depuis toujours. Vous vous souvenez du premier crime, Caïn et Abel. Caïn a fait des émules et il a eu des suivants. Parce que on pourrait dire que l'homme intelligent de notre temps devrait pouvoir quand même arriver à instaurer une paix mondiale. Et on s'aperçoit que quand un incendie, un brasier est éteint d'un côté ou mis en sommeil, il y en a un autre qui s'allume ici, partout. Et nous sommes dans un monde effroyable de belligérance, de guerre, de confrontation, de destruction. Et si nous pouvions faire le recensement depuis les temps immémoriaux de tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille, je peux vous dire que ça représente hein, combien d'hommes n'ont pas vu l'aboutissement de leur vie par la vieillesse, mais des jeunes qui sont morts hein, en versant leur sang par tout simplement eh bien, les affrontements guerriers. Des gens qui finalement sont partis comme cela, et c'est terrible, des hommes, des femmes, des enfants même, parce que c'est un rouleau compresseur que la guerre, il s'agit de la guerre. Hein. En rejetant le Dieu de la vie, parce que c'est ça le principe, l'existence humaine est tout imprégnée de la présence de la mort et de son odeur. Vous savez, nous vivons dans une société, et comme les sociétés d'avant, et comme là, eh bien, on a su l'écrire dans des romans, comme on a su le décrire dans l'histoire, comme on a su peut-être le chanter et peut-être le composer d'une façon ou d'une autre, le décliner sous tous les registres, hein, finalement, nous sommes dans une société morbide. On ne parle pas de la vie. Oh, on essaie, naturellement, de compenser. Mais on sent qu'il y a une empreinte particulièrement délétère dans notre monde. Les guerres, les attentats, les crimes, les accidents, c'est la tragédie du sang. Écoutez, permettez-moi de relire. Il nous est dit que la mer devint comme du sang. Comme le fleuve d'Égypte. Hein. Mais là, c'était limité, c'était localisé, l'Égypte et le Nil. Mais là, c'est généralisé, c'est mondialisé. Et tout être vivant mourut de tout ce qui était dans la mer. C'est quelque chose d'effroyable. Hein. Et Jésus nous prévient, par exemple, dans ses enseignements eschatologiques, c'est-à-dire l'annonce de son retour. Il dira, mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Un royaume contre un royaume. Et ceci et cela, etc. Alors, on peut dire que dans notre temps, dans ce début du XXIe siècle, je pense que déjà en 10 ans, on a bien rempli le carnet de commandes. Hein. Excusez-moi, mais c'est terrible. C'est effroyable. C'est effroyable. Je ne voudrais pas encore faire peur, mais c'est la tragédie du sang. Et le sang a présidé à l'histoire de l'humanité depuis les premiers jours. Ça aurait pu être autrement, naturellement. Mais c'est l'homme et sa folie. sa soif de pouvoir, son hégémonie, de son esprit territorialiste, de s'accaparer les richesses qui ne lui appartiennent pas. Alors il fait la guerre parce qu'il ne sait faire que ça. La troisième coupe jette la malédiction sur les fleuves et les sources d'eau. Une fois encore, l'eau devient du sang. Et nous allons le lire au verset 4. « Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. » C'est ce que nous disions par rapport aux plaies d'Égypte. Avec cette prédilection, avec cette précipitation particulière d'exaucement de prière, c'est-à-dire celle de tous les martyrs qui ont versé leur sang pour la cause de Christ et pour la vérité. Le verset 5 nous le dit. « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné à boire du sang à boire, et ils le méritent. » Alors là, nous rentrons dans une phase de l'histoire des hommes, mais qui concerne l'Église, l'humanité, qui concerne les hommes d'hier en Israël, que l'on appelait les hommes de foi, les prophètes qui ont été martyrisés pour la vérité, pour la justice, pour le nom de Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce que, je vous le rappelle, et nous le savons, il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a les Caïn d'un côté, et il y a les Abel. Et vous savez qu'en ce qui concerne Abel, il nous est dit qu'il était juste. Et je crois que, autant en ce qui concerne le peuple d'élection qui est Israël, autant l'Église d'aujourd'hui, autant les hommes et les femmes que nous sommes, c'est-à-dire des croyants, où nous avons pris position pour la vérité, pour la justice, pour Dieu, pour son royaume, pour l'amour, et puis toutes ces grandes vertus capitales, eh bien automatiquement que vivre dans un monde comme le nôtre, eh bien a nécessairement entraîné finalement de la haine, je dirais plus que de la haine, une inimitié spirituelle. Détruisons Israël, détruisons l'Église, détruisons les chrétiens. Et si l'on s'en rapporte tout simplement à nos 20 siècles de christianisme, mais combien de guerres de religion? Combien d'hommes, de femmes ont été massacrés, ont été égorgés, dont le sang a coulé? Tout simplement parce qu'ils disaient, mais moi, je veux croire en Jésus, je veux vivre de ses paroles, je veux être la lumière dans ce monde, sans prétention, mais je veux être ce que le Seigneur m'a appelé à être, ambassadeur d'une bonne nouvelle. Et automatiquement, eh bien, s'est levé un front qui pouvait être un front politique, un front militaire ou un front religieux, les trois en même temps, hein, pour dire, eh bien, il faut détruire ces gens-là parce qu'ils sont en train de, finalement, de casser l'establishment, c'est-à-dire le système, un système inique. Et les chrétiens ont cette position dans ce monde, c'est que nous sommes, en quelque sorte, eh bien, la semence. Et cette semence, eh bien, nous allons vers l'ivraie, nous allons dans l'ivraie, pour que la semence de la parole de Dieu, eh bien, renverse l'ivraie. Le mal renversé par le bien. Alors, en raison de cela, eh bien, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'aiment pas la vérité, qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui n'ont pas l'esprit de vérité, et qui ont pris les armes pour tuer, justement, les disciples de Jésus. Et c'est aussi des questions dans cette troisième coupe, parce que les hommes ont perdu l'espérance, alors, dans leur folie, les hommes en viennent au drame de s'entretuer et de combattre la vérité, de combattre l'Église, de combattre Israël, on le sait, hein, Israël est toujours omniprésent quand il s'agit de conflits, et que de sang aussi. Tous ces gens qui, sans espérance, sont morts, les suicidants et les suicidés, tous ces crimes, tous ces passions qui deviennent à la mode, qui ont toujours été à la mode, pour en finir avec la vie ou la vie des autres. Écoutez, je relis ces versets. Il versa donc sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elle devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste. Toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. » Et j'ai entendu un autre ange qui, sur l'autel, disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Combien d'hommes et de femmes, chrétiens, croyants, ont pleuré, ont souffert, ont été spoliés, ont été chassés, et qui ont crié à Dieu en disant « Seigneur, fais justice. Fais-nous justice, nous sommes tes enfants. » Et après des temps et des temps de silence de Dieu, eh bien, nous pouvons penser et nous pouvons croire que les jugements qui descendent des coupes remettront les pendules à l'heure. Et là, Dieu, véritablement, rendra à chacun selon ses œuvres. Et c'est Dieu qui arrachera l'ivraie. Ce n'est pas à nous de l'arracher l'ivraie. Vous connaissez, hein, Matthieu chapitre 13, « On ne touche pas l'ivraie, c'est l'affaire de Dieu. » Et ça viendra avec cette troisième coupe. Voici la quatrième coupe qui est répandue sur le soleil. Le verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Phénomène à première vue, certainement compris de cette manière, phénomène probable aux effets cosmiques, donc climatiques. Quand on regarde de plus près, toujours aussi dans l'Évangile, ce que nous dit Jésus de la fin des temps, il nous parle de cela, il nous avertit, Matthieu en particulier, et dans l'Évangile de Luc, où il nous est dit que dans la fin des temps, il y aura des choses qui se produiront dans le ciel, sur la terre, à travers les étoiles, à travers la lune, à travers le soleil, à travers toutes sortes de choses. Je pense que nous sommes aujourd'hui observateurs, je ne sais pas dans quel... jusqu'à quelle limite et quelle dimension, mais on sent que notre planète est en train de craqueler un peu de tous ses côtés, elle est en train de vaciller, on peut pas dire sur son socle parce qu'elle n'a pas de socle, mais elle est en convulsion, notre planète. Et s'il y a un fait de société qui, depuis 50 ou une centaine d'années, interpelle les hommes, c'est véritablement eh bien, ce qui se passe autour de nous. La Terre, et puis le ciel, ce qu'on appelle tout simplement l'écologie. Et on se dit attention, parce que si on continue comme ça, eh bien, on va tous mourir, il ne restera rien pour les générations qui viennent. Et c'est vrai qu'il y a certainement de graves problèmes. Alors on a du mal peut-être à percevoir cela, parce que c'est sur le temps. Mais néanmoins, il semblerait qu'il y ait une précipitation qui devrait interpeller les hommes. Alors ça, ce sont les phénomènes cosmiques, c'est vrai, climatiques. Mais il y a également une autre vue, ça peut être considéré avec sur un autre plan, mais aussi... dégradation des lumières naturelles. Et nous en avons déjà parlé dans l'étude de l'Apocalypse, ces lumières naturelles qui nous viennent de Dieu, mais qui ont été dévoyées finalement de leur juste progression ou de leur juste orientation, telles que la raison, l'intelligence humaine, la science, la philosophie, et toutes ces choses qui sont quelque part un peu le reflet de ce que Dieu nous a donné, parce que l'homme est quand même, eh bien, le summum de la création par rapport aux animaux, par rapport aux végétaux et puis tout le reste de la création, Dieu a mis un sceau particulier. Et l'homme est quand même un être supérieur. Et c'est ces lumières, justement, que Dieu nous a données. Mais qu'avons-nous fait de ces lumières? Qu'est-ce que les hommes ont fait de la raison? Ils en ont fait tout simplement un sujet de s'égarer, de se tromper, de tromper les autres. La raison. La science, avec ses sous-produits, parce qu'il y a certainement quelque chose à saluer dans la science, mais quand on voit ce que la science a engendré, et ce qu'elle est capable d'engendrer, parce que nous tenons entre nos mains les sous-produits, finalement, de la raison et de la science des hommes, ne serait-ce que l'atome, la bombe atomique et tout le reste, ça ce sont des sous-produits. Quand je parle de la pensée, la philosophie, si c'est pour... véritablement, eh bien, amener l'homme par son intelligence à découvrir et à comprendre la parole de Dieu en demandant à Dieu son aide, alors là, je dis d'accord. Mais la philosophie, qui est une philosophie existentialiste, qui nie Dieu, qui relativise, et qui fait que finalement il n'y a ni bien ni mal, que tout cela, il n'y a ni ciel ni enfer, que Dieu n'existe pas et que le diable non plus, alors à ce moment-là, c'est autre chose. Et c'est bien au cœur même de ces lumières qui s'éteignent, de ces lumières dévoyées, de ces lumières qui sont tout simplement, eh bien, quelque part exploitées. Ce sont des clartés desquelles l'homme tente de diriger son existence, avec tout ce que nous avons dit, c'est vrai, de diriger le monde également, mais qui ne lui servent plus qu'à l'entraîner, tout simplement, dans la désespérance. Vous savez, quand on lit les philosophes d'il y a tout simplement 20e et 19e siècle, il y a de quoi se... C'est une philosophie morbide, là aussi. Une philosophie de mort, où il n'y a rien du tout, aucune espérance. Où tout est sur l'homme, mais l'homme, finalement, est mort. Parce que ces mêmes philosophes ont dit que Dieu était mort. Mais quand on voit ce qu'il y a de terrible, ce qu'il y a d'infernal même dans cette pensée, c'est quelque chose, et qui amène les gens justement précisément au suicide, qui les amène à la mort puisqu'il n'y a plus rien du tout. C'est le pessimisme, c'est le désespoir, et c'est l'aboutissement logique, eh bien tout simplement de l'athéisme. Eh oui, la contrepartie. Puisque les hommes disent « Dieu n'existe pas », « Je ne crois pas ». Alors, c'est un athéisme déclaré, c'est un athéisme pratique, mais qui n'amène pas les hommes à être beaucoup plus heureux. C'est ce que nous disions, et je vais le répéter encore ce soir à dessein, mais c'est un peu cette philosophie déjà qui était énoncée, inspirée par Dieu, par le prophète, au prophète Ésaïe, mais mangeons et buvons, parce que demain, nous mourrons. Donc, il n'y a plus de moralité à ce moment-là. C'est pas la peine de mener une vie droite, une vie pure, une vie sainte. Ça sert à rien, puisque de toute façon, nous allons mourir. Alors, comportons-nous comme, eh bien, l'espèce inférieure. Et de l'animal, on arrive à la bête, et de la bête, on arrive à la brute. Voilà. Et quand on voit ce que l'homme est capable quand il est lâché, excusez-moi, je ne voudrais pas montrer un tableau noir, mais quand on voit ce que l'homme est capable de produire, quand il n'a plus de bride, quand il n'y a plus rien, quand il n'y a plus rien qui le retient, plus de limites, alors je vous dis que le soleil qui est frappé, c'est un soleil trompeur. Oui, un soleil qui trompe. Et le résultat, eh bien le résultat, c'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est que l'humanité se révolte de plus belle, et refuse de se repentir. C'est bien ce que nous avons saisi. Il nous est dit que les hommes furent brûlés, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, parce qu'ils savaient, ils reconnaissent que Dieu a quand même l'autorité sur les fléaux. Donc, ils disent que Dieu n'existe pas, mais Dieu existe quand même, puisqu'ils le blasphèment. Si on croit qu'il n'existe pas, ben c'est pas la peine de blasphémer, parce qu'autrement, c'est des courants d'air. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire, parce que c'est la dernière chose que l'homme fou, l'homme insensé, ne veut pas faire. C'est croire que Dieu existe et de se repentir et de dire « Mais Seigneur, eh bien je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour mes péchés. » Et à ce moment-là, eh bien tout repart dans le bon sens. C'est la chose la plus simple et probablement la plus difficile. De venir vers Dieu et de croire qu'il existe et de lui dire « Seigneur, eh bien, voilà, pardonne-moi. » La cinquième coupe est renversée sur le trône de la bête. Alors vous en souvenez, hein, nous avons parlé justement de la bête. Versets 10 et 11. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Il l'était déjà, hein, je tiens à vous le dire. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Vous avez remarqué qu'il y a un endurcissement, un entêtement, qu'il y a là quelque chose comme, finalement, eh bien là, une folie. Ils ne veulent pas se repentir. Ils refusent de reconnaître. Cette coupe qui est renversée sur le trône de la bête, et qui se traduit par un enténébrement général. Ouais. Je crois que nous allons dans un monde, et là vous allez le voir, vous allez le découvrir, et nous le voyons, parce que nous avons des moyens aujourd'hui d'information mondialisée. Et je crois que s'il y a quelque chose qui doit nous interpeller, alors que ça a toujours existé dans tous les temps, dans le paganisme des temps, les premiers temps de l'humanité, à travers tout le déroulement de l'histoire des hommes, mais particulièrement dans la fin des temps, aidé justement par ces moyens de communication et ces moyens de diffusion que vous connaissez, c'est que le mal s'appesantit sur la terre, les pouvoirs humains et leurs politiques vont finir par étouffer la spiritualité et la foi par un moyen tout à fait particulier ou une confrontation, une confrontation, oui, à travers la production ou à travers l'émergence d'une fausse spiritualité que l'on peut appeler la pseudo-spiritualité telle qu'est l'occultisme et la magie. Ça a toujours existé, on en entend parler en Égypte, Moïse est confronté, et puis dans toute l'histoire d'Israël, avec les faux dieux, avec les idoles, avec leur adoration complètement, eh bien là, délirante, et puis à travers même cette pénétration de le christianisme dans sa généralité, ouais. Les hommes vont se servir de ça. Le trône de Dieu, le trône de Satan, le trône de l'adversaire, va s'enténébrer encore de plus en plus. Les ténèbres viennent et prennent tout l'espace, finalement, de la terre, de la vie des hommes. Et tout cela va être remplacé, la vérité, le message de l'Évangile, la personne de Christ, va être remplacée par des superstitions innombrables. Imaginez-vous. Nous sommes dans un siècle où l'homme se pique d'être intelligent, d'être un philosophe, de raisonner avec sa tête. Et on s'aperçoit qu'on va retomber lamentablement et lourdement dans des superstitions, dans toutes sortes de choses, mais terribles. Et le pouvoir de la bête est un pouvoir aveuglant, parce que malgré les détresses infinies, il se mord de la langue. Vous comprenez, les hommes se mordent la langue. Quand on se mord la langue, c'est que véritablement il y a de la rage. Il y a la souffrance, il y a probablement également, eh bien, naturellement, cette souffrance, la douleur. Mais le monde va en arriver à blasphémer et va s'insurger contre Dieu. Et se repentir, eh bien, va lui être impossible. Parce que se repentir, c'est voir clair. Ouais. C'est voir la lumière, se repentir. Et c'est à partir du fait de la repentance que nous voyons clair. Que le Seigneur nous a éclairés sur notre propre vie, ça commence par nous, hein, puis sur le monde dans lequel nous sommes. Se révolter, c'est marcher dans la nuit. C'est pour ça que ces ténèbres vont venir. Ça va venir sur le trône de Satan et Satan va le répandre sur le monde entier, à travers les pouvoirs politiques, à travers le pouvoir des hommes, à travers le cultisme, à travers toutes sortes de choses. Et en faisant la contrefaçon, comme je l'ai dit, c'est un résumé, comme je suis en train de le présenter, à travers des contrefaçons d'une fausse spiritualité, ça paraîtra finalement. L'Évangile, ça aura le goût de l'Évangile, ça aura l'odeur de l'Évangile, mais ça ne sera plus l'Évangile. À travers les sectes, à travers les religions complètement dévoyées, à travers toutes sortes de choses. Nous en arrivons maintenant à la sixième coupe, qui va déverser son flot dévastateur de paganisme, de magie et d'occultisme. Écoutez, versets 12 à 16. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Hermageddon. Alors rien à voir avec les films production Hollywood. Voilà, je tiens à le dire parce que quelquefois on en connaît mieux, quelque part, la signification du nom pour ceux qui sont des... adeptes du cinéma, mais attendez, nous on parle de la Bible, c'est pas Spielberg et le reste, hein. Voilà. Le fleuve Euphrate est la frontière symbolique entre l'Orient et l'Occident. L'Asie, l'Europe, enfin le monde occidental et le monde oriental. Le monde occidental a été... y compris naturellement Israël, puisque c'était la base, la racine, mais a été visité quand même par la manifestation de la pensée de Dieu, à travers les 10 commandements pour Israël, et puis naturellement, à travers la venue de Jésus, de son royaume, le monde évangélique, le monde de la parole de Dieu exprimant la volonté de Dieu pour le salut des hommes. Et on sait que, véritablement, ça a commencé, c'est vrai, à travers Israël. Mais ça s'est répandu, les premières églises chrétiennes dans le Moyen-Orient, et puis poussant toujours vers l'Occident et atteignant maintenant, depuis Christophe Colomb, eh bien, toute cette Amérique inconnue, enfin, étant inconnue de nous. Ça, c'est le monde chrétien, avec ses diverses fortunes, et puis tout ce qui peut véhiculer aussi ce monde chrétien. Mais néanmoins, il y a des chrétiens, des vrais, ceux qui ne portent pas le nom, mais de ceux qui sont de cœur avec Jésus. Et puis de l'autre côté, et c'est connu, c'est le monde de l'obscurantisme. Je ne veux pas juger, hein, mais c'est le monde de l'obscurantisme. C'est le monde qui reste encore aujourd'hui très, 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 très interrogateur, qui nous laisse perplexes. Parce que finalement, il y a dans ce monde de l'Orient, toutes sortes de choses qui n'ont aucune référence avec l'Évangile, aucune référence avec Jésus. L'Extrême-Orient, les Indes, tout ce monde dont nous allons parler d'ici quelques instants. Alors, il y a une séparation, et la route de l'Euphrate va être ouverte. C'est-à-dire qu'il va y avoir une influence qui va déferler sur le monde et qui déferle sur le monde depuis, vous mettrez le chiffre, le nombre de décennies ou d'années ou de siècles que vous voudrez, mais qui déferle sur le monde pour venir apporter le paganisme du côté et corrompre finalement eh bien, le christianisme. Cette porte a été ouverte pour laisser passer les rois de l'Orient. Et les rois d'Orient, ils ne sont pas rois pour rien. Ouais. Ils ne sont pas rois pour rien. Rois au pouvoir délétère, à travers toutes ces grandes religions qui viennent en concurrence. Le bouddhisme, l'hindouisme, le chamanisme. Vous savez ce que c'est que le chamanisme? C'est quelque chose de terrible. Hein, c'est la sorcellerie. Ouais. C'est toutes ces choses qui sont imprégnées de magie, d'occultisme, d'astrologie et toutes sortes de choses. Le New Age, alors ça c'est beaucoup plus moderne. Et puis c'est quand même aussi les penseurs occidentaux qui ont mis cela. Mais ils ont été cherchés justement, ils ont été empruntés à toutes ces rois de l'Orient, à tous ces royaumes de l'Orient, eh bien, la pensée orientale qui est venue corrompre, qui est venue finalement eh bien, dénaturer. Yoga, méditation transcendantale et tout ce que vous voudrez, ça reporte à un nom, ça s'appelle l'occultisme. Les rois de l'Orient ont passé l'Euphrate. Oui. Si vous voulez quelques renseignements, regardez les reportages, vous verrez. Ce sont des hommes sur lesquels nous n'avons pas à juger ni à critiquer. Ce sont des hommes comme nous, ce sont nos semblables. Mais ils sont tenus dans un esclavage. Regardez par exemple l'hindouisme. Comment les gens sont mis en dessous des animaux. Les intouchables, vous avez entendu parler? La superstition. Et toutes sortes de choses, de sentir, de toucher, de voir, chamarrer de toutes sortes de couleurs, etc., qui donnent une ambiance. Mais derrière, avec des philosophies qui sont des philosophies morbides, la réincarnation. La parole nous dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qu'est-ce que vous voulez? Et tout ça, ça a interpénétré finalement notre société occidentale. Cette invasion touchera en priorité, je l'affirme, la société occidentale déchristianisée. Parce qu'un chrétien ne tombe pas dans le panneau. Un véritable chrétien qui croit en Jésus-Christ, qui est né de nouveau, qui peut-être sort justement de toutes ces pratiques, de toutes ces sectes et tout ça. Mais la société déchristianisée, toutes ces puissances, ces rois de l'Orient et ces philosophies, ces religions chamaniques et tout ce que vous voudrez, vont interpénétrer notre société en l'inondant d'un mélange pseudo-spirituel, d'œcuménisme universel, de syncrétisme où on mélange tout, et d'apostasie. Et vous savez ce que c'est que l'apostasie? C'est le rejet de la vérité. Pas n'importe quelle vérité, c'est la vérité de Dieu. La vérité révélée par Jésus-Christ. Je suis la vérité, nous dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a matière à réflexion, hein, assurément. À ces vagues impures qui passent l'Euphrate, parce que, je l'ai dit, la Trinité diabolique prête renfort de sa puissance de persuasion. il nous est parlé des gueules, ou des bouches, ça dépend des traductions, hein. Gueule de la bête. Gueule de la bête. Le système civilisation antichrétien. Ça, c'est la bête, c'est le système. On en a parlé dans le chapitre 13. Vous en souviendrez. Il est question de la gueule du dragon, c'est Satan. Et il est question également de la gueule du faux prophète, c'est la religion apostate. Et c'est là où nous allons toucher du doigt ce que peut représenter Babylone, la grande prostituée. Celle qui normalement s'appelle l'Église, imprégnée dans la société, politiquement, économiquement, dans tous les domaines, qui règne, qui triomphe dans ce monde, avec tous ses fastes, et qui n'est que, finalement, eh bien, une contrefaçon, un ersatz de la véritable Église. Cette Église mondanisée qui sera condamnée, nous allons le voir au chapitre 17 et 18, religion apostate, qui n'a toutes les apparences, finalement, mais qui n'a rien à l'intérieur. Elle est vide, elle est morte. Il nous est parlé de trois esprits comparés à des grenouilles, qui soulignent le caractère abominable et les répugnants. Moi, je ne sais pas si vous aimez les grenouilles, ou leurs cuisses. Mais toujours est-il que c'est quand même un... Qu'est-ce que c'est un batracien, c'est un petit peu gluant, c'est toutes les couleurs. Hein, un crapaud, c'est encore... Enfin, je ne voudrais pas... Si vous en élevez, c'est votre problème. Hein, caractère abominable et répugnant. Ce sont des esprits de démons séducteurs, il nous est dit. Ces rois, des rois et puissants de la terre, qui vont être aveuglés, même éblouis, par cette alliance contre nature et faire la guerre à l'agneau et à l'Église, une fois pour toutes, en un lieu appelé Armageddon. Il y aura, et nous revenons sur le principe que nous avons défini, il y a deux mondes. Il y a le monde de ceux qui sont avec Dieu et de ceux qui sont contre Dieu. Et jusqu'aux rois de la terre, aux hommes politiques, à tous ceux qui seront là, élevés en dignité, avec probablement de bons bobibes, mais aveuglés. Avec peut-être de bonnes intentions, mais aveuglés. Parce que si Christ n'est pas au fond de leur cœur, eh bien il y en a un autre qui les occupe, qui occupe la place. C'est pas possible. Alors il y aura toujours une contrefaçon qui marchera en parallèle. Et il va y avoir une séduction qui vient d'en haut. Et c'est terrible à dire, hein, mais quand on voit finalement, et ça se sait, quand on voit tous ces pouvoirs, à quelque niveau que ce soit, qui commercent avec l'occultisme, qui consultent l'occultisme, l'astrologie et tout ça, alors ils vont finir par être aveuglés, parce que les démons ne peuvent que donner des politiques et des programmes de mensonges. Et rassemblés dans un lieu qui s'appelle Armageddon, pour mener le dernier combat, pour dire, autant pour Israël que pour l'Église, pour les vrais chrétiens, eh bien maintenant, nous ne voulons plus en entendre parler, c'est terminé, il faut les rayer de la carte. Ça, c'est une vieille histoire, hein, en ce qui concerne Israël, en tous les cas. Le lieu Armageddon, je voudrais vous dire que le mot Armageddon, ça signifie « colline de Megiddo ». C'est en Israël, c'est en Palestine. Et Megiddo, c'est un petit peu à tiroir hein, comme explication, mais ça veut dire, Megiddo veut dire le lieu de Dieu. Et pris dans le contexte de l'Apocalypse, c'est le lieu de Dieu où Dieu juge. Et il y a une deuxième signification de Megiddo, ça veut dire le lieu des multitudes. C'est là où tous les rois de la terre, c'est là où toutes les nations viendront se rassembler. Et on en a parlé la dernière fois, c'était abominable ce que nous avons dit, hein, ce que nous avons découvert. Quand il nous est dit que le sang était juste au niveau des morts des chevaux, c'est quelque chose. Lieu des multitudes, c'est là où toutes les nations se lieront contre Dieu et contre l'Église, contre Israël, pour faire la dernière guerre. Une fois pour toutes, comme il y a déjà eu, en modèle réduit, des Waterloo. Ah oui, comme il y a eu des Stalingrad, ou qu'il y a eu des débarquements en Normandie pour vaincre. Enfin, mais c'était en modèle réduit. Mais là, ça ne sera pas un modèle réduit. Ça sera véritablement grandeur mondiale, totale. C'est-à-dire, finalement, eh bien là, quelque chose qui sera complet. Alors, qu'est-ce que sera Armageddon? Nous en reparlerons ultérieurement. Mais ça sera une véritable bataille, ça sera la véritable bataille finale qui coïncidera avec un bref délai dont disposera Satan. Vous savez, hein, il nous a dit qu'il est rempli d'une rage parce qu'il sait qu'il a plus de temps. Donc il disposera encore d'un peu de temps quand il aura réussi à rassembler contre l'Église de Jésus-Christ et contre Israël des forces démoniaques, des pouvoirs civils et militaires impies et la super-Église composite de toutes les religions, de toutes les perversions, de toutes les déviations, de toutes les inspirations occultes et tout ce que voudrez, et tout cela mené de main de maître par le dragon, par la bête, par le faux prophète. Et Hermageddon arrivera en un temps où les enfants de Dieu seront opprimés de toutes parts. Et ils crieront à Dieu. Alors Christ apparaîtra. Ça dévoile un petit peu la chronologie. Je ne veux pas être affirmatif, mais dans la pensée, ça peut aller dans ce sens. Alors Christ apparaîtra pour délivrer son peuple. Il viendra comme, nous dit tout le dit dans la parole, nous l'avons lu, il viendra comme un voleur lorsque les hommes s'y attendront le moins et diront « paix et sûreté ». Vous savez ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Quand les hommes diront « paix et sûreté », c'est alors qu'une ruine soudaine viendra sur le monde entier. Ça s'est déjà vu, ça s'est déjà entendu naturellement. Et les gens diront « victoire ». Et nous avons lu dans notre passage qu'il y a une brève exhortation qui est adressée aux croyants, car l'insouciance et la négligence n'est pas de mise dans les temps de la fin. Écoutez, nous l'avons lu, il nous est dit à un moment donné, « Voici, je viens comme un voleur, nous dit Seigneur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. » Au cœur même de la catastrophe, du fléau, de la calamité inimaginable, Dieu parle encore pour dire « Mais vous, mon peuple, restez debout. Restez debout, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. » Mais Jésus nous laisse entendre, parce qu'il nous le dit dans le chapitre 17, il me semble, de l'évangile de Luc, quand il dit ceci, « Mais lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre ?» Je pense que tout cela, ça doit être dans des temps assez particuliers. Septième et dernière coupe, et je finis. Verset 17. « Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait, il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes et les nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. » Et on peut lire jusqu'au bout. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus retrouvées et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau et de la grêle, du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Cette fois, il s'agit de l'air. Vous avez vu ? Les ulcères au départ, après la mer, après la terre et ceci et cela, etc. etc. Ça, tout y passe. Il s'agit de l'air qui est touché. Et si une malédiction frappe l'air, c'est toute la vie qui devient impossible. Parce que respirer, c'est notre vie. Ouais. L'air est aussi le domaine réservé au diable et à ses anges. C'est pour ça que l'apôtre Paul l'appellera le prince de la puissance de l'air. La mentalité, l'état d'esprit, la manière dont le monde se comporte avec ses modes, avec tout cela. Donc, la septième coupe est la dernière. Comme il y avait une dernière trompette qui disait « Attention, maintenant, ça y est, ça vient, c'est bientôt la fin. » Là, c'est la dernière. Tout ce qui porte la marque de la bête est sous la terreur du jugement dernier. Pas ceux qui ont le signe de l'agneau, on est d'accord. Mais ceux qui portent la marque de la bête. Les délices des hommes sont anéantis. Et que de délices les hommes ont-ils ? Le mal ? Les choses perverties ? Les choses corrompues ? Où l'homme en fait ses délices ? L'injustice et tout ça ? Donc tout ça, eh bien finalement, c'est anéanti. La voix de Dieu se fait entendre. Et il est dit, c'en est fait, c'est terminé. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça y est, maintenant, on ne va pas plus loin, c'est terminé. C'est le jugement dernier. Le mal va prendre fin dans un bouleversement général. C'est ce que nous laisse entendre le verset 8. Ténèbres, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, comme il n'y en a jamais eu sur la surface de la terre depuis que l'homme est l'homme, et homme, depuis que l'homme est dans le monde. Le séisme divin commence par la grande ville. Nous l'avons lu. Selon Apocalypse 11, verset 8, qui n'est autre que Jérusalem, qui sera divisée en trois parties. Elle l'est déjà. Hein. Si un jour vous allez à Jérusalem, vous allez voir qu'elle est déjà divisée. Hein. Partie chrétienne, une partie islam et une partie juive. Séparée en trois. Israël passe par le triage. Ensuite, c'est le tour des villes des nations, les métropoles et les mégapoles qui s'effondrent. Ça va être quelque chose d'impressionnant, on a déjà vu les tours descendre. Alors qu'est-ce que ça va être quand ça va être les villes entières? Wow! C'est déjà inimaginable. Mais on arrive à des proportions, on arrive à des dimensions parce qu'on a la capacité de faire tout cela. L'homme sera l'artisan de sa propre destruction. Et puis en plus, quelque part, il y aura aussi tous ces cataclysmes qui viendront. Tout ça, ça va se conjuguer. Et puis ça survient, et ensuite survient le châtiment de Babylone, le centre mondial de la séduction et de l'illusion qui sera ravagé. Tout ici-bas, ce qu'on avait imaginé s'écroule. L'air souillé par... finalement, eh bien, tout ce que le monde a produit pour polluer. Ce monde corrompu est enfin purifié par une pluie qui lave, sous la forme et l'image de gigantesques grêlons qui pèsent un talent. Et si vous voulez savoir ce que pèse un talent, c'est 39 kilos. Prenez des casques. Ouais. Terrible, hein? Alors quand on voit des grêlons, quand on nous dit gros comme un œuf ou gros comme une balle de tennis, waouh! La grêle s'abat sur les hommes endurcis, ce qui permet à Dieu de leur faire sentir tout le poids. C'est pour ça qu'il y a une notion de poids, c'est symbolique, hein, mais qu'il y ait une notion de poids. Tout le poids qui pèse dans sa balance de justice, tout simplement. Même dans cet enfer, encore une fois, l'humanité ne fait que blasphémer le nom de son Créateur. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que le temps est mûr. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. On va mettre la faucille. Et la serpe dans la vigne, dans la moisson, et la vendange va être faite. Parce qu'il n'y a rien à tirer, puisque tout a été fait. L'évangile a été prêché. L'évangile, cet évangile suppliant en disant « Mais repentez-vous, soyez réconciliés avec Dieu. » Mais les hommes préfèrent encore la mort que la vie. C'est pour ça que la mort arrive. Et elle arrive par leur propre folie, leurs propres mains, leurs propres... Ils sont eux-mêmes, finalement, les auteurs de leur destruction. Mais viendra aussi se mêler, eh bien, tout ce déferlement qui descendra du ciel à cause du dérèglement de tout cela. Alors, n'allons pas accuser Dieu qu'il est l'auteur du mal. Ce sont les hommes qui s'endurcissent. Et je termine la conclusion. Je la trouve tout simplement dans la bouche de Jésus. Dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et au verset 35 et 36, il est dit ceci, « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre et pour nous. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, nous aurons encore... à découvrir, eh bien, la prolongation des couples. Là, on a vu les sept en général, mais après, nous rentrons dans le détail de ce qui va arriver à cette humanité, à ce monde et au système qui conduit le monde d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement terminer en priant. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est vrai que nous sommes là, dans cette étude, véritablement pris au plus profond de nous-mêmes lorsque Seigneur, nous voyons, Père, que tous ces fléaux, ces catastrophes, ces choses désastreuses, ces choses innommables, eh bien, sont le résultat, tout simplement, du rejet de Dieu par l'homme, par la créature. Et de voir que, en pensant être sage, les hommes sont devenus fous. En pensant être intelligents, ils ont perdu la raison. Puisque ils sont eux-mêmes les propres producteurs de leur élimination, de leur souffrance. Tout cela parce que tu nous l'as rappelé et tu nous le dis à chaque fois que nous ouvrons le message de l'Évangile, parce que Dieu est Seigneur, parce que Dieu est souverain, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il domine dans le ciel et sur la terre, qu'il est la source de vie, qu'il est véritablement le cep, et que nous ne sommes que de misérables sarments, mais que réellement, eh bien, par cette coupure, par cette rupture, eh bien, nous empêchons la sève divine, l'espérance, la foi, le bonheur, l'éternité, le salut, le pardon, ton pardon, oui Seigneur, eh bien, de passer dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos consciences, dans nos esprits, pour être changés et transformés. Alors Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions. Et nous te bénissons pour l'immense privilège, l'insigne privilège d'avoir dans nos vies le signe de l'agneau. Mais nous voulons te prier pour ceux qui ont encore la possibilité, Seigneur, eh bien Père éternel, de choisir et de revenir vers toi, dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Alors nous te remercions parce que nous proclamons que tu es le Dieu de la vie. Et tout ce que nous avons pu prendre en connaissance, Seigneur, ce soir, eh bien, Seigneur, toutes ces choses sont marquées par la mort. Alors il est toujours temps de faire demi-tour. Il est toujours temps de te demander pardon. Il est toujours temps de revenir à toi et te dire, eh bien, maintenant j'ai bien compris. Seigneur, je te choisis. Et je te choisis, Seigneur, pour devenir véritablement mon sauveur. Parce que là, nous avons besoin d'un sauveur lorsque nous arrivons dans ces pages de l'Apocalypse. Il ne s'agit pas d'autre chose. Le besoin et la nécessité, Seigneur, de prendre Jésus comme sauveur. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.